Bon jeudi matin, tout le monde. On va tout de suite se jeter dans les sujets d'actualité qui nous préoccupent. Mais avant, je vais vous dire qu'en entrevue sans filtre tout à l'heure, je reçois une comédienne que vous suivez tous les soirs si vous êtes un fan de la série District 31. Geneviève Brouillette sera avec nous. Également, en deuxième heure d'émission, je vais recevoir un alpiniste qui a promis de gravir 55 montagnes sur la planète en 55 mois. C'est bien sûr pour célébrer son 55e anniversaire. C'est un alpiniste qui parcourt le monde pour et qui est un guide aussi extrêmement professionnel, François-Guy Thivierge. Il est conférencier et ça tombe presque bien qu'on le reçoive aujourd'hui, même si on l'avait prévu depuis plusieurs semaines, sa visite, parce que comme guide, il va pouvoir, guide d'aventure, il va pouvoir nous parler aussi de ce métier-là qui, vous le voyez dans l'actualité, est un métier où il faut bien sûr être très responsable des groupes qu'on encadre, un métier qui comporte des risques également. Donc, on recevra la visite de l'alpiniste François-Guy Thivierge tout à l'heure. On va bien sûr parler de ce coronavirus en provenance de la Chine. Ça vous inquiète, je sais, vous avez été très nombreux à m'écrire là-dessus. Et des fois, il y a des drôles de hasards. La télévision nous en montre des cas d'épidémie en ce moment. Et moi, sincèrement, c'est un de mes coups de cœur de cette saison. C'est la série coécrite par Annie Pierrard, Épidémie, sur TVA. Et sincèrement, on dirait que, franchement, c'est la réalité qui rattrape la fiction ici. Annie Pierrard sera avec nous tout à l'heure pour faire cette série, qui est d'ailleurs dans le top 5 là, des émissions les plus écoutées depuis un mois. Elle a rencontré toutes sortes d'experts et elle va nous dire si, d'après elle, c'est effectivement plausible ce qui se passe à la télé comme dans la vie. Mais d'abord, je vais bien sûr revenir sur le sujet qui nous intéresse tous ce matin d'entrée de jeu. Bien sûr, c'est cette expédition de motoneige qui a mal tourné. Vous savez qu'en ce moment, la Sûreté du Québec continue de chercher les motoneiges et surtout les motoneigistes. Il y a toujours des touristes français qui sont portés disparus. Il y a un guide, leur guide québécois a été retrouvé mort. Et là, ce matin, l'émission de mon collègue Paul Arcand, la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, qui est d'ailleurs en conférence de presse en ce moment même où on se parle à Laval, où elle annonce des mesures qui vont prendre effet rapidement, c'est-à-dire une nouvelle formation et pour les guides et pour les touristes. Évidemment, est-ce que ça va changer quelque chose? Je l'écoutais ce matin à l'émission de mon collègue Paul Arcand. Je me demandais si un petit cours ici et là, tu sais, ça va avoir l'air de quoi? Un petit 15 minutes avant d'enjamber une motoneige, est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? On va en discuter avec des gars qui connaissent bien ce secteur de l'économie. Vous savez qu'on le dit là depuis, on le rappelle en fait parce qu'on le sait, mais on le rappelle en cette semaine de la sécurité internationale en motoneige, on rappelle à quel point pour nous, au Québec, c'est une industrie qui est extrêmement importante. La ministre du Tourisme l'a rappelé. Mais je veux dire, tous les gens qui parcourent les sentiers de motoneige au Québec, que ce soit au lac Saint-Jean où c'est arrivé ou ailleurs au Québec, c'est très prisé. Il y a des gens qui, chaque année, attendent l'hiver avec grande hâte pour faire ce sport, pour pratiquer ce sport. Julien Cabana est chroniqueur motoneige et quad au Journal de Québec. Bonjour Julien.
Bonjour Madame Isabelle.
Michel Garneau est rédacteur en chef du magazine Motoneige Québec. Bonjour Michel.
Bon matin.
Je sais que vous êtes tous les deux renversés par ce qui s'est passé cette semaine. Julien Cabana.
Écoutez, c'est affreux, une tragédie semblable. Je craignais qu'un jour ou l'autre, on arrive à ce point-là parce que les gens souvent sont imprudents et vont sortir des sentiers balisés, ce qui, à mon avis, est la pire des erreurs à faire parce que les sentiers balisés, c'est la référence. Il faut rester dans le sentier. Je l'ai écrit encore ce matin. Restez dans les sentiers, ne sortez pas. Et surtout, ne pas s'aventurer sur des plans d'eau. Ça, c'est la pire chose à faire. Écoutez, c'est très malheureux qu'une tragédie comme celle qu'on vient de vivre, qui est épouvantable, amène des changements qui sont probablement en train d'être annoncés par le ministre en conférence de presse au moment où on se parle. Je souhaite ça, mais vous savez que c'est pas d'aujourd'hui que la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et la Fédération quad, les deux fédérations demandent des formations pour le guide obligatoire et demandent une formation aussi pour les gens qui louent la motoneige. Parce que, vous le disiez tout à l'heure, je vous écoutais, 15 minutes, c'est toujours même mieux que zéro, comprenez-vous? Je sais que c'est pas beaucoup, mais au moins, si on leur explique comment ça fonctionne, au lieu de leur dire juste, bon, l'accélérateur est à droite, le frein est à gauche, tu t'assois là-dessus, tu suis le guide, je pense que si on les assoit, on leur explique le fonctionnement de la machine, la signalisation d'un sentier, les règles observées, on leur explique de ne jamais sortir du sentier, de ne jamais accepter même de sortir du sentier. toutes des choses comme ça, ça peut être dans une formation, je pense, qui va être très utile.
Oui. Michel Garneau, quel genre de forme pourrait prendre, justement, cette formation? Julien vient d'en parler un petit peu, mais si... Là, j'imagine que la ministre a réfléchi à ça, là.
Bien, premièrement, j'aimerais exprimer nos sincères condoléances à toutes les personnes, la famille et les amis de ces personnes-là. C'est une véritable tragédie. Pour revenir aux commentaires, bien, c'est certain que la motoneige vit un drôle de dilemme, en ce sens que c'est un véhicule qui est très facile à conduire à première vue. Hein. Mmh. On n'a pas de clutch à maîtriser ou rien de tout ça. On n'a pas l'équilibre à garder. Alors, c'est un véhicule que foncièrement, on s'assoit dessus, on lui donne les gaz, ça part, on freine. Puis là, dans l'espace de 50 pieds, on se pense tous des experts, alors que la réalité est loin d'être là. Donc, c'est certain que tous les efforts qui vont être faits pour sensibiliser les gens à vraiment là, faire attention et à se rappeler qu'on n'est pas des experts après 30 secondes au guidon va aider, comme Julien en parlait. Tu sais, il y a toute la question de la signalisation et tout ça, mais il faut comprendre que la dynamique de conduite d'une motoneige, c'est assez complexe. Ça se fait dans un milieu hors route. Donc, on demande aux gens, justement, de rester dans les sentiers. C'est l'endroit le plus sécuritaire. Mais malgré cela, ça nous met pas à l'abri de flaques de glace ou bien de choses comme ça, de situations qui demeurent complexes à gérer. Donc, c'est ça, c'est vraiment de donner des outils aux gens qui n'ont jamais fait de motoneige avant et puis de les sensibiliser au fait que la sécurité doit passer avant tout.
Voilà, c'est de leur rappeler des mesures de sécurité, dans le fond, parce que prenons le cas qui nous occupe, là, cette tragédie, d'ailleurs, qui est la pire hein, à survenir, selon ce que la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec a recensé. Il y a quand même eu encore, dans la saison 2018-2019, on s'en était parlé tous les deux, vous et moi, là, on est à 22 morts. C'est quand même pas rien, là. 22 personnes mortes. Vous allez me dire, il y a 30 000 touristes qui viennent chaque année pratiquer la motoneige au Québec, donc ça reste marginal, heureusement, mais quand même, c'est un véritable problème. Je veux dire, un mort, c'est un mort de trop, alors que c'est une pratique sportive. Donc, dans le cas qui nous occupe, on aurait rappelé les règles de sécurité. Est-ce que ça aurait pu nous protéger de ce raccourci qu'ils ont choisi de prendre? Les touristes qu'on cherche toujours aujourd'hui. Là. Puis le guide, ici, le guide semblait être extrêmement fiable. Le pauvre guide québécois qui est mort, là. Tout le monde dit qu'il était fiable, il était sécuritaire, il connaissait le coin. C'est un gars qui a fait 20 ans qu'il faisait sa job. Donc, je pense pas qu'on peut dire que c'est la faute du guide. Puis des fois, ben moi, j'ai fait de la plongée sous-marine, puis des fois, je peux vous le dire, j'ai accompagné des groupes. Des fois, les plongeurs, t'as beau leur dire, faites attention, allez pas là, attendez, j'arrive, ils sont plus vite que toi. Donc, c'est extrêmement délicat de dire, regarde, on va mettre la sécurité, on va rappeler les règles, puis ça va éviter les accidents.
Il y a deux choses qu'il faut savoir. La première des choses, c'est que si on regarde le bilan historique de l'activité motoneige,
ouais.
C'est que la tendance est à la baisse depuis 30 ans maintenant qu'on suit ça, que j'avais fait des études par le passé quand je travaillais pour le Conseil canadien des organismes de motoneige. Le nombre d'adeptes ne cesse de croître et le taux de décès, bien qu'il demeure trop élevé, hein, un c'est un de trop, on s'entend là-dessus, mais la tendance est à la baisse. Donc l'activité, malgré le sensationnalisme qu'on a des fois, la tendance est à la baisse. Et l'autre élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est tout le produit de décisions qui ont été prises par des êtres humains. Hein? On est des ouais. êtres imparfaits. Il y a de la témérité qui s'embarque. Ces gens-là, je ne suis pas en mesure de vous dire pourquoi, comment ils sont aboutis ou ce qu'ils étaient, mais de toute évidence, il n'y avait pas d'affaire à débarquer du sentier. Mmh. Alors, c'est une décision du guide, c'est une décision que quelqu'un a prise de façon aléatoire, on ne le saura jamais, mais il en reste pas moins que ces gens-là avaient le devoir de rester dans le sentier. On rappelle souvent que le seul endroit sur un cours d'eau où la sécurité est garantie, c'est sur le sentier balisé. On a des bénévoles de club qui s'acharnent, qui font le travail de vérifier l'épaisseur de la glace. Ils vont baliser un sentier. Si les gens choisissent de rester dans le sentier, ils sont en sécurité. Ouais. Dès qu'on choisit de débarquer du sentier, on se trouve à lancer les dés. On prend des chances qui sont pas nécessaires. Alors, malheureusement, on voit que dans les pires des cas, on a des tragédies comme celle qui s'est passée l'autre jour.
Ouais. Julien,
oui,
justement, vous dites, Julien, il y a deux éléments qui sont importants pour vous, là. C'est la formation des guides qui s'occupent des touristes et la formation des touristes aussi.
Oui, c'est des éléments très importants parce que vous savez, vous avez soulevé un point tout à l'heure, je vous écoutais parler. Oui, l'indiscipline, ça va vite chez les hommes. Michel l'expliquait tout à l'heure, c'est grisant conduire une motoneige.
Ouais.
C'est agréable, c'est une machine, on accélère, mais si on n'est pas conscient des techniques de conduite, des dangers, juste un petit exemple que j'ai donné au cours de plusieurs entrevues, c'est que si vous frappez une bosse à droite sur votre machine et que la machine se soulève vers le sol, il faut pas la suivre, il faut se rabattre du côté droit pour rabattre la motoneige au sol, mais ça, la personne, ça le sait pas, là. Elle va suivre la machine, puis finalement, elle va tomber sur le côté, puis elle risque de se blesser. Comprenez-vous? C'est ce que vous dites, là, c'est ça, c'est que la connaissance, la méconnaissance des choses. C'est pour ça que je dis que...
C'est un bolide. En fait, c'est un bolide.
Moi, j'en ai fait
un peu de motoneige. J'ai trouvé que c'était extrêmement grisant. Passer des week-ends, justement, dans des sentiers avec des amis. Il y a un sentiment de liberté, mais ça part vite, là. Quand ça part, là...
Ça fait au-delà de 50 ans que j'en fais de la motoneige, là, puis il m'arrive encore d'être surpris dans une courbe par une plaque de glace, comme disait Michel. Tu prends ta courbe, tu penses, et tout à coup, il y a une petite plaque de glace. L'expérience qu'on a fait en sorte qu'on va contrôler notre motoneige. Mais la personne qui n'en a jamais fait et qui se retrouve dans la même situation que moi, je donne pas cher de sa peau, on sait pas ce qu'elle va faire.
Mais donc, en ce moment, là, quelqu'un qui conduit, qui a un permis de conduire, peut conduire une motoneige, il n'a pas besoin d'un cours spécial, là.
Non. Ça, c'est que quelqu'un arrive chez un locataire, il loue une machine, bon, ils vont lui expliquer le fonctionnement, ils vont lui donner certains conseils, puis il part.
Ça n'a pas de bon sens.
L'encadrement légal actuel est que l'âge minimal est de 16 ans. Les motoneigistes de 16 et 17 ans doivent avoir suivi un cours qui leur donne un certificat de compétence. Les adultes de 18 ans et plus n'ont pas besoin de permis de conduire pour conduire une motoneige, l'exception étant que si ces gens-là n'ont pas de permis de conduire valide, ils ne peuvent pas traverser un chemin public ou emprunter un sentier qui longe la voie publique. Mais quelqu'un qui est dans le fin fond du bois, c'est un chemin forestier ou quelque chose comme ça, la loi telle qu'elle est écrite actuellement n'a pas besoin de permis de conduire.
Mais est-ce que c'est pas là où on devrait intervenir, Julien Cabanat, Michel Garneau? Là où ce que vous me dites, c'est que n'importe qui, tu as 18 ans et plus, tu n'as pas de permis de conduire, puis soudainement, tu peux avoir un véhicule motorisé qui va à des vitesses assez impressionnantes. Hein? La motoneige, ça va vite aujourd'hui, les motoneiges.
Pour dire une chose, c'est que la motoneige, elle est toujours sous le contrôle de l'opérateur. La motoneige va aller aussi vite que l'opérateur lui demande. Moi, c'est possible de rouler à 20 km à l'heure à longueur de journée. C'est toujours le pilote qui décide. On fait affaire avec des êtres imparfaits, des êtres humains qui prennent parfois des mauvaises décisions. Et malheureusement, c'est ça la réalité. Il n'y a pas une motoneige sur le marché comme c'est là qui ne peut pas être conduite à 10 km à l'heure à longueur de journée.
Ouais. Ça revient à dire ce que je dis toujours, ce que Michel vient de dire. Moi, j'ajouterais que la motoneige, elle ne fera rien tout seul, c'est ce que je dis aux gens. Et ça se passe entre les poignets et le banc, le 16 pouces du corps humain entre les deux, plus le cerveau qui est au-dessus. C'est lui qui décide ce que la motoneige va faire. C'est lui qui décide de sortir du sentier. C'est lui qui décide de faire quoi que ce soit avec, d'aller rouler sur un lac quand c'est pas certain. La motoneige, elle s'en ira pas toute seule sur le lac. Il faut que la personne qui est aux commandes le fasse. Et si la limite est 70 km/h, la motoneige, elle s'en ira pas à 100 km/h sans que la personne aux commandes lui donne l'ordre de le faire. Et je dis, c'est une machine qui est formidable, mais il faut conduire ça en respectant ses limites, en respectant la réglementation, en demeurant dans les sentiers. C'est une activité merveilleuse et c'est grisant, oui, l'accélération, mais il faut toujours passer à une chose. Il faut garder le contrôle et savoir s'arrêter quand c'est le temps. Ça, c'est des éléments qu'il faut enseigner, justement, aux gens là, qui louent des machines, à mon avis. Surtout, je l'ai dit souvent, vous savez, la personne qui arrive du 9e arrondissement de Paris, qui s'assoit sur une motoneige, un instant, là, il n'a jamais vu ça de sa vie, sauf qu'il a vu ça à la télévision, le scooter des neiges, comme ils disent là-bas. Il l'a vu dans Ricana, les gars. Oui, mais là, attends un peu, là, c'est pas comme ça que tu t'es fait, mon vieux. Là. C'est ce que Michel disait, c'est vrai, il y a beaucoup de côté technique à conduire une motoneige. Et même nous...
Même nous, là, tu viens de Rosemont, là, ou de n'importe quel quartier de Montréal, t'as jamais vraiment fait de la motoneige. Tu peux être surpris. Messieurs, restez avec moi, bien sûr. On est en compagnie de Julien Cabanat, Michel Garneau, deux spécialistes de la motoneige et de cette industrie. On va revenir sur ce que a dit la ministre Caroline Proulx. En gros, là, il va y avoir une accréditation éco-qualité-sécurité Bon, c'est un beau nom, mais est-ce que ça va faire en sorte qu'on ait plus d'accidents? Il y en a trop, et en particulier avec des touristes, des accidents de motoneige. J'ai envie de vous demander aussi, est-ce qu'on n'est pas rendu au-delà là, d'avoir de la formation puis des petits cours? Est-ce que, parce qu'on en a pas, là, donc c'est important, oui, bonne idée, mais est-ce qu'on ne devrait pas demander de façon obligatoire un permis de conduire? Parce que si tu as déjà conduit une voiture, normalement, tu es un peu au courant de comment contrôler un bolide, un moteur ou en tout cas un véhicule motorisé. Je vais vous poser la question. Dans la grande région de Montréal, vous pouvez me joindre en faisant le 514-790-9850. Puis si vous êtes motoneigiste de l'extérieur de la grande région de Montréal, vous faites le 1-866-790-9850. Puis dites-moi un peu si vous avez vu des choses là, justement qui font en sorte de nous dire « ben oui, c'est une industrie qui mérite d'être un peu plus banalisée ». À tout de suite tout le monde. La ministre du Tourisme du Québec, Caroline Proulx, a annoncé ce matin, elle est d'ailleurs encore en train de le faire, l'obligation désormais de détenir une accréditation éco-qualité-sécurité pour pouvoir être une entreprise québécoise qui finalement loue des services de tourisme en motoneige. Évidemment, si tu es quelqu'un qui pratique la motoneige, qui invite des amis touristes ou même des amis d'ici, on peut t'encourager à prendre un cours, mais ça reste encore, d'après ce qu'on comprend, relativement difficile de vraiment encadrer complètement une industrie qui touche beaucoup de monde. Alors, Roger, d'ailleurs, nous appelle. Vous avez déjà été propriétaire de pourvoirie. Roger, est-ce que la formation là, que va demander maintenant le gouvernement du Québec pour les guides et pour ceux qui pratiquent, entre autres des touristes, est-ce que ça vous paraît réaliste, vous, comme solution?
Oui, très réaliste. Le gros problème, c'est que ça prend beaucoup plus que ça. J'ai été propriétaire, comme je vous dis, pendant plusieurs années. Et à un moment donné, je suis arrivé face à face dans une courbe avec deux motoneigistes qui coursaient. Et ça, c'est des choses qui arrivent
régulièrement. Et ça, c'était en sentier, ça? C'était dans un sentier balisé?
Dans un sentier, c'est clair. Ah, oui.
Ouais, c'est ça.
Totalement, oui. Et ça arrive encore. Ça, c'est là qu'il y a le danger. C'est une question de bon sens. Et on pense que la motoneige, c'est quelque chose de facile, que ça se conduit tout seul. Non, c'est très difficile, aussi difficile dans un sens qu'une auto, même plus.
Est-ce qu'on devrait avoir un permis de conduire obligatoire pour en louer une?
Ah, définitivement.
Mais oui, Michel, je pense qu'on a oublié ce bout-là, moi, aujourd'hui, dans l'annonce. Là.
Vous avez absolument raison. Ah. Le pire, c'est que la personne à qui on loue la motoneige, ben, on ne sait pas quelle est son expérience. Alors, dans bien des cas, vous avez des gens que c'est la première fois, j'ai vu dans des garages, là, où on loue des motoneiges, des gens qui n'avaient jamais conduit, on leur loue, puis bonjour, allez-vous-en, puis promenez-vous. C'est impossible. Ça prend absolument un permis, et tant qu'on n'aura pas de permis, on va avoir des problèmes, on va avoir des morts, on va avoir des blessés.
Voilà. Merci beaucoup, Roger. Merci bien. Sylvain, votre opinion là-dessus?
Oui, bonjour. J'offre mes sympathies là, aux familles là, impliquées dans cette tragédie. Mais la formation, là, je la trouverais un peu utile, oui. On n'est jamais assez formé. Mais surtout, il faudrait utiliser les technologies qu'on a aujourd'hui. Moi, je suis motoneigiste et pilote d'hélicoptère. Comme pilote, je dois avoir un système de flottaison à toutes les fois que je traverse un plan d'eau. Puis en motoneige, ça existe là, ces systèmes-là. Là. C'est des systèmes intégrés dans le manteau, que c'est des vestes de sauvetage, que à l'instant qu'on touche l'eau, le système se déploie. Que moi, personnellement, j'en ai acheté une, ça vaut pas trop cher, c'est très commun. Il y a un magasin là, que je dirais pas son nom, mais qui commence par Canadienne. Il y a des manteaux qui se vendent pour 300$ là, avec le système.
Mais c'est
intégré,
comme des
là.
Manteaux gonflables, c'est ça? C'est comme
Oui, c'est des manteaux gonflables.
C'est comme une veste de sécurité qui se gonfle à l'impact. Une sorte
oui,
de.
C'est ça. Ah bon. À la minute qu'on touche l'eau, le système se déploie, puis ça fait une veste de sauvetage, là. Que je pense que ça serait un bel exemple là, de cette tragédie, là. Probablement que ça aurait donné beaucoup de chance aux personnes, là, quand ils ont tombé dans l'eau.
Parce qu'ils sont. Parce que, comme motoneigiste, vous pouvez nous confirmer, c'est lourd l'équipement, là. Tu sais, tout ton manteau, le pantalon, les bottes, vous êtes équipé, là, quand vous faites de la motoneige. C'est pesant.
Oh,
c'est pour ça
non,
que les gens ont de la misère à remonter à la surface.
Bon, mais le système, là, le système de flottaison pèse. Même pas, je pense, une livre et demie.
Mm-hmm. Mais est-ce qu'il peut relever 200, 250 livres de poids?
Oh, ben oh, oui, c'est
ah oui?
Oh, oui, là, c'est une veste de flottaison faite spécialement pour les montagnards.
Mais ça peut être intéressant, cette idée, Sylvain, tout à fait. Merci beaucoup de la suggestion. Pierre, bonjour.
Oui, bonjour, ça va bien?
Oui, on vous écoute, Pierre.
Dans le fond, moi, la motoneige, là, depuis une trentaine d'années, là, tu sais, c'est vraiment un mode de vie. Là, on est très, très passionnés. On est une gang, là, au chalet, là. Nous sommes tous enfants et on a tous chacun notre motoneige.
Même les enfants, et, vous dites, Pierre? Même des enfants? Oui?
Ah oui, nous autres, les enfants, depuis l'âge de 5-6 ans, là, ils ont commencé avec des mini... Les mini motoneiges, puis maintenant nos enfants, tu sais, ils sont adolescents là, ils sont très très conscients et très très bons conducteurs de motoneige.
Ils font là, pas les fous là, vous avez extra. Pas besoin de leur rappeler régulièrement, roulez pas trop vite, respectez les sentiers.
Ben nous là, c'est excessivement du hors sentier là qu'on fait là.
Ouais.
Ok, étant donné les grandes plaies là que nous avons là en ZEC ou hors ZEC là.
Mm-hmm.
Mais par contre, la première chose que l'on fait, une des premières formations que l'on explique à nos jeunes, puis qu'on le montre dans pas excessivement d'eau, là, où il y a des plans d'eau, où il y a à peu près un pied ou deux pieds d'eau, là, on lui explique puis on lui montre à traverser un plan d'eau, parce qu'on sait très bien qu'une motoneige, si tu n'arrêtes pas, elle va continuer puis elle coulera pas. Là. Ça, c'est certain, certain, certain. Mais une formation de base...
Oui, mais en même temps, ça roule pas sur l'eau. Là. Je comprends ce que vous dites, Maxime, mais ça roule pas sur l'eau.
Ouais, mais moi, je peux vous dire que des 400-500 pieds sur l'eau, là, très, très facilement, là, à 35-40 km/h, si vous arrêtez pas,
ouais.
Si vous faites pas d'arrêt rapide, la motoneige va traverser l'autre côté, puis il y aura aucun problème. Tout le monde va arriver à bon port, là.
Ouais. Mais c'est l'explication. Mais disons que c'est pas le message qu'on veut passer aujourd'hui. Donc, on dit aux gens, allez pas sur l'eau. Ouais.
Je parle que s'il arrive en cas d'urgence,
ouais.
En cas d'urgence, où vous voyez de l'eau, la première affaire à faire, c'est ne jamais freiner instantanément parce
ouais.
Que lorsque vous freinez, il n'y a pas...
Ouais. Y a plus. Mais ça, voyez-vous, justement, ça c'est... Merci beaucoup de votre commentaire. On va aller à la pause puis on va revenir. On va faire quelques minutes supplémentaires là-dessus. Vous êtes très nombreux à vouloir intervenir. Mais c'est clair que idéalement, tu vas pas sur un plan d'eau. Moi, j'habite souvent en face à un lac, puis je peux vous dire, j'en vois des gens, même du monde qui va marcher sur le lac Brome alors qu'il est même pas gelé. Tout le monde le sait dans le coin. Il y a des gens qui vont avec leur voiture, qui vont avec des motoneiges, avec des skis, des patins. Voyons, comment qu'on... Tu sais, il faut que ça nous rentre dans la tête. Ça reste de l'eau, puis on n'est pas là à mesurer l'épaisseur à chaque fois. Il faut vraiment qu'il y ait plusieurs jours de moins 20 pour être sûr que c'est jamais gelé. Puis voyez, regardez au lac Saint-Jean, il y a des endroits, ce qu'on appelle en eau vive, là, ou en eau claire plutôt. Ce que ça veut dire que ça gèle jamais dans ce coin-là. Il y a des bouts de lac où il n'y aura jamais de glace. Et c'est sûr que si tu ne connais pas le coin, tu ne t'aventures pas là. On revient tout de suite après. Sincèrement, pour éviter ce genre d'accident, comme cette tragédie en motoneige, et on cherche toujours les touristes français depuis deux jours, je pense qu'on en est rendu à un point où il faudrait demander de façon obligatoire un permis de conduire pour toute personne qui veut louer une motoneige. Puis je sais, vous allez dire, oui, mais c'est pas forcément des gens qui vont ensuite être sur la route, contrairement à un véhicule automobile. Mais il y a quand même des sentiers banalisés qui croisent des routes. Et ne serait-ce que pour ça. Vous allez me dire aussi, bon, en bateau, si t'as un bateau moteur, ça te prend un permis, puis tu peux le faire sur Internet. C'est vrai. Tu sais, à un moment donné, là, faut vraiment prendre ses responsabilités. On a Maxime qui est avec nous. Vous avez déjà fait une formation, vous, Maxime, comme motoneigiste. Racontez-nous un peu ce que c'était, rapidement.
Oui, moi, je suis de la génération qui ont été obligés de suivre une formation à partir de 14 ans pour avoir le droit de faire de la motoneige.
Ouais.
Moi, je suis motoneigiste depuis que je suis tout petit. Je suis né là-dessus. Cette formation-là m'a apporté pratiquement rien. C'était une dame qui faisait même pas de motoneige qui nous donnait la formation. C'était un cours d'une journée. La majorité des jeunes, on en connaissait plus qu'elle sa motoneige parce qu'on était tous nés là-dedans. Fait que moi, je peux dire côté formation, ça m'a pas apporté grand-chose. Deuxièmement, je connais beaucoup le contexte des pourvoiries. Je fais beaucoup de voyages, ces choses-là. La tragédie qu'on a eue, c'est vraiment déplorable, mais souvent... Puis une formation ne remplacera jamais le jugement. Puis les groupes guidés, ces choses-là, souvent, c'est pas évident à gérer. Y a des gens qui ont froid, les délais sont serrés. Là, il était rendu 19h le soir. Des fois, les plans qu'on réserve, il y a une heure maximum pour le souper. Après ça, ils ferment la cuisine. Des fois, c'est 20h, donc ils ont-tu décidé de prendre un raccourci? Parce que aucune formation aurait pu sauver, je pense, la vie de ces gens-là. C'est une question de jugement.
Voilà, c'est
vraiment triste. Mais ces gens-là auraient pu être en raquette, en ski de fond, puis décider de traverser le lac, ça aurait été la même chose.
Exact. Ouais.
Là, moi, ce que je trouve dommage au Québec, puis on fait beaucoup de sensationnalisme là-dessus, c'est qu'on comptabilise tous les décès en temps en motoneige. Puis les journaux, on le voit, un 8e, un 9e, un 10e décès en motoneige. Mais si on prend le 25-30 décès qu'il y a par année, puis qu'on enlève tous les décès qui sont justement des noyades, les gens, ils sont pas d'incendie qui se noient, qu'on enlève tous les gens qui sont en boisson, qui se promènent le soir, qui ont un accident, faire de la motoneige dans le jour, dans le contexte de 8h le matin à 7h le soir, même si on sait qu'il y a des gens qui font de la vitesse un peu, même si on sait qu'il y a des gens qui sont moins expérimentés d'incendie, il y a peut-être quoi, 3-4 décès par année. La majorité, c'est des noyades, c'est des gens en boisson, ces choses-là.
Mais puis des gens, Maxime, quand même, qui ont percuté des arbres, là, je pense, l'année dernière, là, il y a quand même... Puis ça, c'était dans des sentiers banalisés. Vous allez me dire, OK, il y a une pourvoirie au lac Beauport qui est reconnue pour ça, pour être dangereuse. Mais des touristes, il y a une touriste française qui est morte là, parce que sa motoneige a percuté un arbre. C'était le matin. Dans un sentier d'une pourvoirie le matin. Bon, un autre aussi qui a perdu la vie, un Français de 62 ans qui a perdu la vie en 2015, je pense, de mémoire. Il avait manqué une courbe. Lui aussi, il a frappé un arbre. C'est quand même pas un sport qui est facile pour tout le monde, il y a ça. Là. Merci beaucoup, en tout cas, de votre commentaire. Puis on comprend, à la lumière de ce qu'a vécu Maxime, Julien Cabanin, Michel Garneau, que une formation... Oui, c'est pas une mauvaise idée. Pourquoi pas? Pourquoi il n'y en a pas eu avant? Mais il y a peut-être d'autres mesures. Pour le permis de conduire obligatoire, Julien Cabanin, vous en pensez quoi?
Le permis de conduire est obligatoire si on veut traverser une route quand on est dans un sentier de motoneige.
Non, mais pour tout le monde qui voudrait conduire une motoneige. Oui, tu veux louer une motoneige, as-tu un permis de conduire?
Oui, normalement, moi, en tout cas, moi, ça m'a toujours été demandé quand on a loué des motoneiges. Mais écoutez, ça, le permis de conduire, à mon avis, c'est parce qu'une automobile et une motoneige, c'est pas la même chose. Fait que peut-être que ça pourrait être une mesure. Mais après, quand on parle de formation, je fais ça vite parce que le temps avance. La formation, faut donner une chance. Là, on vient d'annoncer qu'il va y avoir quelque chose. Enfin, on va laisser le temps que la formation se prépare. On va voir comment ça va être fait. Puis peut-être que ce monsieur-là a vécu de mauvaises expériences, mais ça ne veut pas dire que ce qui s'en vient ne sera pas meilleur.
Avez-vous été consulté, vous, Julien, là-dessus? Vous êtes pas mal un expert en motoneige au Québec?
Moi, on m'a demandé beaucoup, souvent, mon opinion là-dessus. Et c'est pour ça que j'ai parlé, j'ai donné certaines recommandations.
À la ministre?
J'ai parlé à des gens.
Oui, à la ministre?
Pas à la ministre comme telle, mais comme avec la Fédération des clubs motoneigistes, j'ai parlé beaucoup avec eux. Comme j'ai parlé beaucoup avec la Fédération Quad, c'était une crainte que j'avais, moi, que ces gens-là sont pas assez formés et que on est. Puis là, j'ai donné des idées, comment on pourrait faire, donner la vidéo, présenter quelque chose. Faire en sorte que les gens connaissent un peu ce à quoi ils touchent.
Voilà. Merci beaucoup.
Je m'inscris en faux avant de finir. Je m'inscris en faux, excuse-moi, Michel, je m'inscris en faux sur le monsieur qui disait tantôt qu'une motoneige, ça flotte, puis c'est ça. Et une motoneige, là, excusez-moi, là, mais c'est pas un bateau.
Mais non, ça
une
flotte pas.
Une motoneige, ça roule sur la neige, puis ça reste dans la neige. Puis l'autre monsieur, avec son manteau qui flotte, ça veut dire qu'il présuppose qu'il va aller sur de la glace et il présuppose qu'il risque d'avoir un accident de tomber à l'eau. Je pense pas que c'est comme ça qu'il faut penser. Excusez-moi, là, mais c'est pas comme ça.
Restez dans les sentiers. Oui, Michel Garneau. Merci, Julien Cabanin. Merci beaucoup. Michel Garneau, très rapidement. Est-ce que vous êtes...
La première des choses, c'est certain qu'on applaudit toute mesure qui va aider à hausser le bilan sécurité de l'activité.
Ouais.
J'aimerais porter votre attention toutefois, parce que là, la question de la formation revient à nombreuses reprises. Suite à la recommandation d'un coroner en 2010, l'Institut national de la santé publique avait entrepris une étude justement pour évaluer la décision là, d'avoir une formation. Et puis, c'était dans le contexte des véhicules tout-terrain et des motoneiges. J'avais siégé sur le comité de ça. Il y avait une énorme recherche et un travail très, très aigu qui avait été effectué pour ensuite se rendre compte que l'effet de la formation était plutôt négligeable et, dans le meilleur des scénarios, à très courte durée. Donc,
Qu'est-ce qui serait non négligeable, Michel?
C'est parce qu'il y a deux choses. Il y a les comportements puis il y a l'attitude. OK? Si vous voulez voir l'étude, là, allez sur le site de l'INSPQ. Ça s'appelle « Les effets potentiels sur le bilan de sécurité en tout cas, blablabla, bla, bla, mais elle a été publiée en 2011. Donc, je vous encourage à aller la lire, puis vous allez voir qu'il y a une recherche très, très, très approfondie qui a été faite. Et c'est des experts du milieu, de l'INSPQ, qui ont statué que ce n'était pas une bonne idée, ou bien que ça leur aurait très, très peu d'effet que
d'avoir des formations. Voilà, c'est ça.
Donc,
mais moi, je pense que
même des experts du milieu. Là.
Merci beaucoup, Michel Cabanant, rédacteur en chef du magazine Motoneige Québec. Je pense que l'obligation du permis de conduire quand tu veux louer une motoneige, ça s'impose. Regardez, là, ils viennent nous le dire. Là, on a des rapports qui datent. On s'en occupe pas. Là, on lance une formation comme ça. On n'explique pas trop ce que c'est, pensant que ça va régler le problème. Y a des gens qui me disent, moi, je fais de la moto, puis j'ai besoin d'un permis de moto. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est ce qu'il fallait dire. Je pense que c'est ça la conclusion. Merci beaucoup à tous les deux, Julien Cabanant, Michel Garneau. On va suivre ce dossier-là, bien sûr, puisque je vous rappelle que la Sûreté du Québec continue de chercher ceux qui sont toujours manquants. C'est une histoire vraiment triste que celle-là. On va s'arrêter ici tout de suite après la pause. Je reçois la co-auteure de la série Épidémie. C'est de la fiction, mais ça rattrape l'actualité en ce moment qui nous intéresse avec ce virus qui sévit en Chine. À tout de suite, tout le monde.